Radio Okapi. Jocelyne Moussa Oponde pour le journal.
La marche de Lucha prévue ce mardi à Goma pour demander le départ du président Kabila n'a pas eu lieu. Ceux qui ont tenté de manifester ont été appréhendés par la police. La route Lulimba-Kilembwe dans le sud Kivu, sous contrôle de l'armée depuis ce matin. Cette route était occupée la semaine dernière par les miliciens du groupe Yakutumba et ceux de Malaika. Au menu de la seconde partie de cette édition, le dossier, la revue de presse et l'actualité sportive. Bonjour à tous. Cette édition part du Nord Kivu. Les manifestations du mouvement de la Lucha prévues ce mardi à Goma n'ont pas eu lieu. Les quelques militants de la Lucha qui ont tenté de manifester ce matin ont été appréhendés par la police. Toutes les activités socio-économiques tournent normalement. Cependant, un important dispositif de force de sécurité reste visible dans quelques coins chauds de la ville. Le point avec Gabriel Wamenya depuis Goma.
Du rond-point Rutshuru, au nord de la ville, en passant par les ronds-points Signères, c'est le croisement communément appelé Instigo et André Président, jusqu'au quartier Ndoche au sud de la ville, toutes les activités tournent normalement. Les marchés, écoles, magasins et boutiques ont ouvert. Sur cette trajectoire, Radio Kapi n'a constaté aucun signe matériel de manifestation, de marches, moins encore des sit-ins ou des villes mortes. Dans le quartier Majengo, l'un des plus chauds du quartier de la ville, la situation est calme. Les quelques militants de la Lucha qui ont tenté de manifester ont été vite arrêtés par la police et amenés vers une destination jusque-là inconnue. Nous ont rapporté les quelques habitants rencontrés dans la rue lors de leur arrestation. Ce matin, bien sûr, ces militants de la Lucha portaient des banderoles de couleur rouge et scandaient des slogans demandant le départ du président Joseph Kabila et du gouverneur Julien Paluku. Des sources dignes des points affirment quelques acteurs des droits de l'homme, parmi eux ceux de la MONUSCO, qui ont tenté de faire le monitoring sur le terrain, ont été empêchés par un haut officier de la police. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Merci Gabriel. Au Kasaï oriental, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement confirme l'organisation d'une marche pacifique le jeudi 30 novembre. Pourtant, une décision du maire de Mbujimayi datant d'il y a un mois interdit l'organisation sur la ville des manifestations publiques pacifiques soit-elle. Le président du RASOP Kasaï oriental, pour sa part, soutient que le maire est informé de la tenue de cette marche et que les mesures ne devraient pas être sélectives. Denis Kalombo s'exprime au micro de Chris.
Nous confirmons que le 30, nous allons faire une marche pacifique, comme nous avons informé le maire de la ville, pour exiger une transition sans Joseph Kabila. Nous avons vu l'autorité morale de la CDD et AJDS faire une marche sur le boulevard, partant de l'avenue Ngalula jusque sur l'avenue Kalonji et rentrer avec un attroupement. C'est une activité politique. Il a fait ça le 15 novembre. Entre-temps, nous avons vu des tenants de comptoirs faire des caravanes motorisées circuler sur toute la ville. Il ne faut pas qu'on fasse des mesures qui sont sélectives en voulant chercher à coincer les autres alors que de l'autre côté, ils sont en train de le faire. Il y a eu beaucoup de manifestations entre cette note que vous évoquez et aujourd'hui. Et je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas nous laisser aussi faire une marche pacifique comme nous la demandons.
À Kinshasa, l'Union nationale des nationalistes, UNANA, parti cher à Willy Mishiki, dit concéder à la décision du gouverneur de la ville en rapport avec l'interdiction des manifestations pour des raisons sécuritaires. Cependant, Willy Mishiki estime qu'André Kimbuta aurait autorisé la MP et l'UNANA à tenir chacune sa manifestation à la date sollicitée, tout en programmant celle du rassemblement un autre jour. Il invite l'autorité provinciale à prendre ses responsabilités en cette matière. Et puis, en rapport avec l'exhortation de la Cinco, le chef de l'État a déclaré publiquement qu'il ne va pas participer aux prochaines élections. La majorité présidentielle estime que cette déclaration s'est déjà entendue. Son porte-parole s'est ainsi exprimé hier sur Radio Okapi lors de l'émission Dialogue entre Congolais. Alain-André Atundu pense que les évêques devraient se limiter à leur mission évangélique et sociale et non se mêler de la politique de l'État. Il est au micro d'Alain Ivorong.
Eh bien, sauf respect que je dois en opèrent les évêques. Je dois rappeler que le président de la République s'est exprimé plus d'une fois sur cette question, une fois solennellement devant le Congrès. Je pourrais même rappeler de mémoire ce passage où il disait que la Constitution sera respectée en ce qui le concerne, et quant à ceux qui se soucient jour et nuit de son sort, eh bien son sort est réglé par la Constitution. Que dit la Constitution ? La Constitution dit que le président en fonction, au regard de la Constitution actuelle, ne peut pas effectuer plus de demandes. Or, jusqu'à présent, je ne vois aucune initiative du président Kabila de nature à faire croire qu'il aurait un troisième mandat.
Mais qu'est-ce que ça dérangerait s'il le disait ?
Eh bien, qu'est-ce que ça dérangerait si on demandait aux évêques de s'occuper un peu plus de nos paroisses où il y a tant de problèmes ?
Des nouvelles du Parlement. Nous apprenons le début hier à l'Assemblée nationale de l'examen de loi de modification de la loi électorale. Cet examen intervient 2 jours seulement après l'expiration du délai accordé par la CENI au Parlement pour voter la dite loi. Dans son économie du texte, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est revenu sur les innovations contenues dans ce projet, dont la moralisation de la classe politique et la mise en place d'un seuil de 3% aux partis politiques. Emmanuel Chadary rassure que ces nouvelles réformes vont apporter des solutions aux problèmes déplorés en 2006 et 2011. On l'écoute.
Au regard de l'absence des registres de l'état civil, il a été proposé que la répartition des sièges se base sur le nombre d'électeurs enrôlés, contrairement à la loi actuelle qui se fonde sur le nombre d'habitants. Deuxième innovation, l'introduction du seuil. Il a été constaté sur le plan politique l'émiettement de la classe politique, l'augmentation spectaculaire des nombres de partis politiques, la dégradation de l'indice de représentativité. Ces 3 facteurs ont entraîné les conséquences ci-après. La sous-représentation, le vote de moins en moins politique, la disproportionnalité et les candidatures fantaisistes. C'est pourquoi le présent projet de loi préconise le recours au seuil légal des représentativités de formations politiques peuvent donc aller au regroupement, et cela, c'est la conséquence logique du principe d'essai légal de représentativité.
Prenant la parole en premier lors du débat général autour de ce projet de loi, le député Mohindo Zangi a exprimé sa déception du fait que sa proposition de loi introduite avant ce projet et dans le respect de toute la procédure n'a pas été examinée au profit du projet sous examen. Ces députés membres du MCR, l'un des partis de la plateforme de l'opposition G7, dénoncent le caractère liberticide du projet de loi sous examen et plaident pour que sa proposition de loi soit prise en compte comme amendement par la commission politique, administrative et judiciaire censée examiner en profondeur ce projet de loi. Les députés Mohindo Zangi.
Il y a cette question des regroupements politiques. Dans le texte qui nous est proposé par le ministre, il est dit ceci. Un parti politique membre d'un regroupement politique ne peut présenter une liste de candidats dans une circonscription électorale dans laquelle le regroupement a présenté une liste. Cette disposition, honorable président, elle est dangereuse. Je donne un cas de figure. Si l'AMP décide de se représenter dans une circonscription, un autre parti de l'AMP ne peut plus se représenter dans cette circonscription-là. Ça crée un problème quand même. Je reviens sur le seuil. En principe, il s'agit d'une disqualification des candidats qui ont été élus en aval. Ça présente des problèmes sérieux. Imaginez-vous dans une circonscription comme Goma. 6 candidats, ils sont élus, du premier au 6e, mais tous font partie des partis politiques qui n'ont pas rempli le seuil. Ça veut dire que la ville va être représentée par des personnes qui n'ont pas eu les voix des électeurs. Ça va créer des troubles dans le pays.
À l'issue du débat général autour de ce projet de loi et des réponses apportées par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le projet de loi électoral a donc été déclaré recevable et envoyé en commission pour examen approfondi. C'est un dossier signé Michel Kissindangoy. Parlons justice à présent dans l'affaire opposant le ministère public à Maître Timothée Mbouya. 36 ONG des défenses de droits de l'homme de la RDC condamnent la décision qu'elle qualifie de scandaleuse et dénuée de tout fondement juridique rendue par le tribunal de paix de Lubumbashi, Katuba, le 20 novembre dernier. Dans un communiqué de presse conjoint publié le week-end à Lubumbashi, ces ONG dénoncent la condamnation à 12 mois de prison ferme de Maître Timothée Mbouya, président de Justicia Iceberg, pour avoir déposé un mémorandum appelant la CENI à publier le calendrier électoral. D'après ces ONG, cette affaire est politisée. Maître Jonas Moulumba, directeur de droit civil et politique au sein de Justicia, est au micro de Paul Amunanga.
Nous disons que c'est une décision qui n'a pas assez de fondement parce que le juge devait motiver sa décision, démontrer en quoi il est reproché, n'est-ce pas, à Maître Timothée d'avoir provoqué, incité, n'est-ce pas, au manquement envers l'autorité, ce qui n'a pas été démontré. Voilà pourquoi nous disons que la décision est une décision inique. Nous continuons à plaider pour qu'il puisse purement et simplement libérer parce que il n'a commis aucune infraction ou aucun acte infractionnel. Cette décision ne nous plaît pas et pour votre gouverne, il n'y a pas que lui qui a été reproché par rapport à ça. Ils étaient arrêtés à 5. Il y a les 4 autres qui ont été condamnés à 8 mois pour pratiquement les mêmes faits. Nous avons formé appel par rapport à cette décision. C'est depuis le 3 que l'affaire a été prise en délibéré et jusqu'à ce jour, le juge d'appel ne s'est pas encore prononcé. Nous commençons à comprendre qu'il y a le politique là-dedans, étant donné que cette démarche-là, c'était une démarche pour demander à la CENI de publier le calendrier électoral.
Autre titre de ce journal, Sud Kivu, l'armée régulière vient de reprendre ce matin le contrôle de la route qui sépare la localité de Lulimba de la cité de Kilembwe à l'extrême sud du territoire de Fizi, voisin du Maniema. Cette route était occupée par les miliciens du groupe Yakutumba, coalisé à la milice Malaika venant du territoire de Kabambare. Cette coalition avait pris le contrôle de Kilembwe la semaine dernière, contraignant les FARDC à faire un repli stratégique vers Salamabila dans le Maniema à 25 kilomètres de Kilembwe centre, Fiston Goma.
Le commandant du secteur opérationnel Sokolade au sud du Sud Kivu dirige ses opérations militaires sur place. Le général Bwang Safari Gustave a été accueilli hier soir en triomphe avec ses troupes par la population de Kilembwe. Cette source militaire affirme que les assaillants n'ont opposé aucune résistance sur leur parcours depuis Lulimba. Cependant, ajoute la même source, les miliciens ont incendié les villages Mabunga et Tulungu avant de se retirer. Le commandant des FARDC dit qu'une arme AK-47 abandonnée par le milicien a été récupérée dans ces villages. Sur place à Kilembwe, la population vaque paisiblement à ses activités. Plusieurs dizaines de camions des commerçants bloqués depuis une semaine à Kilembwe, suite à ces opérations militaires, ont continué leur route vers Uvira et Bukavu. Par ailleurs, la société civile dénonce des cas de tuerie des civils dans certaines localités du territoire de Fizi. Elle ajoute que la cité de Kilembwe est déserte de la moitié de sa population. Celle-ci se trouverait dans la brousse, craignant les exactions des forces régulières qui l'accusent de collaborer avec les rebelles. Depuis dimanche, 2 personnes auraient été tuées par des soldats FARDC à Nyangé et à Namisha, soulignent les acteurs de la société civile. D'Ouvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Okapi.
Par ailleurs, 4 personnes, dont 2 militaires, sont mortes, 3 blessés, 2 autres prises en otage et plusieurs biens pillés. C'est le bilan d'une attaque à Numbi dans le haut plateau de Kalehe au sud Kivu par des combattants Nyatura venus de Massissi voisin au nord Kivu. La population s'est réveillée ce mardi matin, encore sous le choc des échanges de tirs entre les assaillants et les FARDC et des pillages, mais le calme revient peu à peu après la fuite des assaillants. Nous allons nous rendre à présent dans la province de Tanganyika. Lancement jeudi dernier à Kalemi du projet He for She, traduit du français Lui pour elle, par l'ONG locale Afiamama, pour relever le défi des femmes leaders en province. L'action bénéficie d'un appui de l'ONU Femmes. Environ 100 participants, dont 80 femmes membres d'associations féminines, ont pris part aux travaux d'un jour dans un atelier de renforcement des capacités des femmes leaders à Jolie Plaza. Le gouvernement provincial du Tanganyika promet de soutenir le projet. Écoutons les explications du chef de bureau de l'ONG Afiamama à ce sujet. Jeff Mbia est au micro de Thérèse Kisangoulé.
Notre ONG a été responsabilisée par ONU Femmes avec, en partenariat avec le mouvement des jeunes femmes leaders, qui est aussi une association de plusieurs ONG d'encadrement de jeunes, de procéder à l'identification des femmes leaders pour arriver à l'élaboration de l'annuaire, le tout premier annuaire de ONU Femmes RDC, mais aussi créer le mouvement des jeunes femmes leaders dans le sens de préparer déjà la relève avec le système de mentorat, mais aussi permettre aux femmes de l'intérieur des provinces de relever des défis et des perspectives d'avenir s'agissant dans la participation politique, autonomisation économique de la femme, la participation des jeunes pour atteindre les objectifs de développement durable, mais aussi voir comment les défis qu'éprouvent les personnes vivant avec handicap.
Actualité Afrique Monde.
Le président kényan Uhuru Kenyatta a été investi ce mardi pour un second et dernier mandat à la tête de son pays lors d'une cérémonie marquant la fin d'une saga électorale à rebondissement qui a rappelé au Kenya ses profondes divisions ethniques, géographiques et sociales. Réélu à la présidentielle d'octobre boycottée par l'opposition, Uhuru Kenyatta a prêté serment sous les vivas de 60 000 personnes rassemblées dans un stade de la capitale Nairobi en présence de 13 chefs d'État principaux. Principalement africains. Une attaque à la grenade contre des soldats français à Ouagadougou a marqué l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Burkina Faso pour sa première tournée en Afrique, devant initier une nouvelle étape de la relation entre Paris et ce continent. Lors de cette visite de 3 jours, qui doit le mener également en Côte d'Ivoire et au Ghana, Emmanuel Macron entend convaincre une jeunesse africaine de plus en plus hostile à la présence française sur les continents, sur fond de menaces terroristes persistantes au Sahel, que les troupes françaises installés dans la région ont du mal à combattre et d'un flux migratoire croissant que l'Europe veut endiguer. Depuis 10 jours, l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères tchèque Tidiane Gadio est incarcéré à New York, soupçonné de corruption dans une affaire entre le Tchad et la Chine autour des concessions pétrolières. Il avait réclamé sa libération conditionnelle, comme le gouvernement américain avait fait appel. Un tribunal américain a tranché hier lundi. Il pourra bien quitter le centre de détention pour aller en résidence surveillée dans sa résidence du Maryland sur la côte américaine.